Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir le vendredi. 2 heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre de l'actualité. Avec sur la table ce soir le dossier des assistantes maternelles et le cafouillage gouvernemental. Hier soir, 19h51, Matignon fait savoir que les 280 000 nounous de notre pays ne pourront pas accueillir d'enfants pendant 3 semaines, en cohérence avec les crèches fermées comme tous les établissements scolaires depuis ce soir. Puis 3 heures plus tard, Matignon tire le frein à main au cœur de la nuit et assure que rien n'est tranché pour finalement cet après-midi et cet après-midi seulement donner un feu vert aux assistantes maternelles. Elles pourront travailler normalement et accueillir les enfants. Emmanuel Macron avait exigé après sa prise de parole de ses troupes qu'elles évitent les cafouillages. Sur ce point-là, c'est raté. On vous explique tout dans un instant. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir qui débute avec le journal d'Amandine Bégaud et les autres grands titres. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous et en ce début de long week-end de Pâques, nous vous emmènerons gare Montparnasse à Paris. Les franciliens sont-ils nombreux à quitter la capitale tant qu'il est encore temps? Réponse dans un instant. Dans ce journal, également les autotests qui se font toujours attendre. Et puis les salles de spectacle qui rouvrent, oui oui, pas ici en France, mais à New York.
Les incontournables dans RTL Soir, acte 1, Éric Brunet, sa liberté de parole, tout à l'heure rendez-vous 18h50. Acte 2, on défait le monde comme tous les vendredis soirs, 19h15 avec Cini et compagnie. En attendant, et d'abord, la météo. Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Ça baisse encore ce week-end.
Oui, les températures qui baissent encore demain, 4 à 9 degrés demain matin, 1 à 6 degrés dimanche matin. En revanche, l'après-midi, on aura des valeurs de saison, 14 à 20 degrés du nord au sud. Côté ciel, on s'en sort pas mal samedi et dimanche, du soleil. On aura juste quelques nuages près de la Manche. Sur la région PACA, en revanche, ça va se gâter pour le lundi de Pâques. On va en reparler tout à l'heure.
Merci Céline.
RTL Soir.
On attend donc toujours la confirmation officielle, mais a priori, les assistantes maternelles vont bien pouvoir continuer à travailler. C'est ce qu'indiquent ce soir plusieurs syndicats de la profession. Un soulagement, on l'imagine, pour bien des parents qui ont stressé toute la journée. Arnaud Touche, on vous retrouve en direct de Nanterre, tout près de Paris.
Oui, et je peux vous dire que les papas qui viennent récupérer en ce moment leurs enfants ici ce soir chez leur assistant maternel attendaient cette décision avec beaucoup d'impatience. Pierre est le père de Robin.
Effectivement, c'est un gros soulagement. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je préfère que ça tombe ce soir que mardi matin. On a annoncé quelque chose, puis finalement, je pense qu'ils se sont aperçus que c'était pas forcément la bonne décision, que ça allait pénaliser beaucoup de monde. Et du coup, il y a eu un rétropédalage. Moi, je préfère le savoir maintenant que mardi matin, ou voire au milieu de semaine prochaine, qu'il y ait encore un changement en milieu de confinement, ou on revienne en arrière.
Et du coup, le petit Robin va pouvoir revenir mardi chez Olivier, son assistant maternel, qui s'occupe au total
là,
de 3 enfants.
Quand même aux parents de pouvoir s'organiser et ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de leur société. Et puis nous, ça nous permet de continuer l'activité avec les petits. Ça évite aussi un trop grand temps d'absence parce que ça a quand même une importance dans le suivi pédagogique et éducatif des enfants.
Olivier se réjouit donc de cette décision, mais pense également à ses collègues assistantes maternelles qui, pour certaines, auront droit au chômage partiel car certains parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison.
Arnaud Touche en direct de Nanterre pour RTL. Et on le disait après le non d'hier soir, on attend quand même toujours le oui officiel du gouvernement. Ça fait bientôt 24 heures que cette histoire dure. Bonsoir William Galibert. Très clairement,
bonsoir.
C'est un nouveau couac pour le gouvernement.
Oui, et à côté de ça, l'épisode de l'attestation de sortie qui était totalement incompréhensible paraît presque anecdotique. Vous rappelez les chiffres, près de 280 000 assistantes maternelles en France, à chaque fois entre 1 et 4 enfants à garder. Vous imaginez un peu le nombre de parents qui étaient sur les nerfs. Il y a une assistante maternelle, Nathalie, tout à l'heure sur RTL, qui résumait la situation. Elle disait, je cite, « Je suis la nounou qui attend la décision des neuneux de Matignon ». Effectivement, c'est du côté du Premier ministre que la machine s'est grippée. Hier soir, on nous a donc dit non, puis en fait, on ne sait pas. Et il a fallu cette nouvelle réunion tout à l'heure pour changer d'avis. Enfin, normalement, puisque le tampon officiel n'est pas encore là. C'est normal qu'il faille un peu de temps pour se caler. Mais annonce, puis contre-annonce, ça nous fait mal, soupire ce soir un député de La République En Marche. D'autant plus mal qu'Emmanuel Macron avait effectivement passé une consigne ferme à ses équipes avant son intervention mercredi soir. Surtout, éviter les cafouillages.
éviter les cafouillages, c'est raté. William Galibert du service politique de RTL, merci à vous. Je précise pour tous ceux qui ont une nounou à domicile cette fois, c'est-à-dire qui vient chez eux garder leurs enfants, qu'elle peut toujours venir, un confinement ou pas, cette fois, la règle ne change pas.
Pour les enfants, dernier jour de classe aujourd'hui avant la fermeture.
Oui, l'occasion pour les enseignants de donner les toutes dernières consignes avant l'école à la maison la semaine prochaine. Ça vaut pour les ados comme pour les plus petits. Benjamin Boucriche, vous vous êtes rendu dans une classe de grande section de maternelle à Versailles.
Oui, dans cette salle de classe, les 30 enfants de maternelle sont assis par terre face à leur maîtresse, Maryse Clavier. Elle leur a préparé un petit dossier pour continuer l'école à la maison.
Vous allez faire votre petite course au trésor à la maison, d'accord ? Puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire en classe.
Les enfants sont évidemment ravis d'avoir leurs parents comme professeurs.
Moi, j'aime bien l'école à la maison parce qu'on peut jouer dehors quand on a terminé son travail. J'aime bien l'école à la maison et parce que mon frère a un tableau à la maison.
Je voudrais bien faire l'école à la maison tous les jours si je serais chez mes grands-parents parce qu'il y a un énorme jardin.
Pour les parents, par contre, l'enthousiasme est plus mesuré, disons. Florence est la maman de 5 enfants.
Ça va pas être simple. C'est pas forcément un bon souvenir, effectivement, la dernière fois qu'on a fait l'école à la maison. Pour une semaine, ça m'embête pas. Une petite semaine, d'ailleurs. Et pour plus, oui, ça m'embêterait, par contre.
Et avant de transformer leur maison en salle de classe, parents et enfants auront le droit à un jour férié, lundi, pour chercher les œufs de Pâques.
Reportage signé Benjamin Boucriche pour RTL. L'école à la maison, pour certains, ce sera ailleurs que chez eux, au bord de la mer ou à la campagne. Comme lors du premier confinement, les familles qui le peuvent n'hésitent pas à fuir les grandes villes. Bonsoir Nerissa Imani, on vous retrouve en direct de la gare Montparnasse à Paris. Comment ça se passe ce soir? Est-ce qu'il y a du monde?
Oui, beaucoup d'affluence dans la gare. On entend même résonner des cris d'enfants, car vous l'avez dit, de nombreuses familles ont décidé de s'exiler ces prochaines semaines. Agathe traîne une lourde valise, cartable sur une épaule, un sac sur l'autre, d'où dépassent des jeux de société.
Japo, chez mes parents, pour les 3 semaines de fermeture des écoles. Déjà parce qu'il y a plus de place, il y a un plus grand jardin, et puis moi ça me permet de faire du télétravail en ayant quelqu'un qui babysitte ma fille pendant ce temps-là. Télétravail et garde d'enfants, moi j'ai joué à ça pendant que j'avais le Covid et... C'est pas une bonne idée, on peut pas tout faire.
À côté, Adélaïde, 4 ans, ne tient pas en place.
Et là, tu vas où alors?
J'ai mon papy et ma mamie. Je vais passer Pâques.
T'es contente?
Oui.
Alors, il y a aussi ceux qui voyagent seulement pour ce week-end de Pâques, comme cet étudiant en partance pour la Baule.
C'est le moment pour partir. J'ai une attestation numérique pour le long trajet, du coup. Bah, c'est vrai, ouais, que c'est compliqué de rester dans son petit 18 mètres carrés. Surtout le mien, il est au rez-de-chaussée, il y a un immeuble en face, j'ai jamais de lumière, alors je suis triste. Et là, on va prendre un peu d'air iodé, ça va faire du bien.
Un étudiant qui a quand même pris un gros sac de voyage au cas où son école d'ingénieur ne reprend pas en présentiel. Il n'exclut pas de rester en Loire-Atlantique.
Voilà quelqu'un de prévoyant, Nerissa Imani, en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Merci aussi à Benoît Gillon qui vous accompagne sur les routes. Très peu de monde hein, ce soir, 125 km de bouchons seulement en Ile-de-France à 18h07. C'est 2 fois moins qu'un vendredi habituel, on le rappelle, le couvre-feu. C'est à 19h et la règle, tolérance jusqu'à lundi, le temps de rejoindre un autre lieu de confinement. Mais aller fêter Pâques n'est pas un motif dérogatoire. C'est ce qu'a tweeté tout à l'heure Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport. Et avant de retrouver les grands-parents ou autres, certains d'entre vous ont peut-être pris le soin de faire un test PCR. Et les autotests, on nous les avait promis pour le mois de mars, pour la mi-mars. Où en est-on ce soir, Odile Pouget?
Alors, cela arrive lentement, mais sûrement. Il y a un peu plus de 15 jours, feu vert de la Haute Autorité de Santé qui estimait ces tests fiables à 80% et les recommandait aux plus de 15 ans. Asymptomatique, à utiliser soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à grande échelle, soit dans le cadre privé, juste avant par exemple une réunion de famille. Il y a 3 jours, validation de l'agence du médicament concernant la conformité de ces autotests, validation accordée pour l'instant à 2 fabricants qui avaient déposé des dossiers. Ces autotests devraient donc arriver en pharmacie très très prochainement au prix de 5 euros.
Des autotests qui sont disponibles en supermarché dans nombreux pays étrangers, en Allemagne notamment, pourquoi pas chez nous?
Parce que c'est un dispositif médical et que selon la loi, il relève du monopole des pharmacies. Le ministère de la Santé insiste d'ailleurs sur les conseils du pharmacien pour effectuer correctement cet autotest, notamment les 5 rotations, en enfonçant le coton-tige tige de 2 à 3 cm dans la narine et la nécessité, surtout si on est positif, de confirmer le résultat par un test PCR. C'est essentiel également pour une question de suivi et de contrôle de l'épidémie.
Merci Odile. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Et parmi ceux qui s'impatientent de l'arrivée de ces autotests, il y a Martin Blachier, médecin de santé publique. Il vient dans 10 minutes en direct sur RTL nous donner sa version du pourquoi ça coince actuellement. Il est notre invité dans un instant. Une pause, on retrouve Amandine Bégaud pour la suite du journal dans un instant avec un décès suspect, celui d'une Toulousaine de 38 ans, morte 15 jours après avoir été vaccinée. Et bien ce soir, sa famille porte plainte. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
18h11, bon début de soirée, la suite du journal d'Amandine Bégaud et donc cette nouvelle plainte après le décès d'une patiente vaccinée à l'AstraZeneca.
Et Carole, une Toulousaine de 38 ans, victime d'une thrombose, elle est décédée lundi, 15 jours après avoir reçu une injection. Aujourd'hui, ses proches ont décidé de porter plainte, plainte pour homicide involontaire. Étienne Boitin est leur avocat.
Je précise qu'elle avait été vaccinée dans un cadre professionnel, elle était jeune, en parfaite santé, elle n'avait aucun facteur de risque, pas de traitement, pas de suivi médical. Elle était assistante sociale dans un IME, un institut médico-éducatif, au contact de jeunes atteints de handicap physique ou mentaux, donc une population vulnérable, et c'est dans ce cadre-là qu'elle avait reçu une injection. La famille veut savoir, la famille veut des réponses. La famille n'est pas dans une démarche de recherche de responsabilité à tout prix. La famille est dans une démarche d'interrogation. C'est maintenant qu'il faut déposer plainte pour qu'une enquête ait lieu et pour que des réponses puissent être obtenues.
Maître Boitin au micro RTL de Patrick Tégéraud. Trois personnes sont toujours en garde à vue ce soir après cette rixe mortelle hier à Pontoise dans le Val d'Oise. Deux hommes de 21 et 35 ans ont été tués. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Tout est parti d'un vol de moto.
Oui, un vol commis un peu plus tôt dans la journée au sein de la communauté des gens du voyage. Immédiatement, la victime de ce vol, accompagnée de son père et d'un ami, embarque dans un fourgon. Direction le quartier des Hauts de Marcouville. Ils savent que c'est là-bas qu'ils retrouveront leur moto. Effectivement, vers 20h15, un homme de 21 ans sans casque passe dans le quartier au guidon de l'engin qui faisait des roues arrière. Le conducteur du fourgon qui attendait jusque-là allume le moteur et percute le moteur de face. Grièvement blessé, le jeune homme décédera dans la soirée. Entre-temps, une trentaine d'habitants s'est dirigée vers la fourgonnette. Une bagarre éclate. Le plus jeune des trois membres de la communauté des gens du voyage sort un pistolet et fait feu à plusieurs reprises. Un homme de 35 ans s'écroule. Il est mortellement blessé. Les policiers interviennent, interpellent les trois agresseurs. Ils sont âgés de 23, 24 et 57 ans. Leur garde à vue peut durer jusqu'à demain soir.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Du rugby, Amandine.
Oui, le 8e de finale de Coupe d'Europe prévu aujourd'hui entre les Irlandais de Leinster et Toulon a été annulé après la découverte d'un cas de Covid au sein du RCT. Un joueur qui était pourtant resté sur place à Toulon, mais désormais c'est la règle. Hein. Les Irlandais sont donc qualifiés sur tapis vert. C'est comme ça qu'on dit. Un scandale, dit ce soir le président du RCT.
Colère, dégoût, oui, bien sûr, on est un peu écœuré. On est vraiment traité comme des Kleenex, presque. À la rigueur, on aurait pu admettre qu'à la suite du cas positif de mercredi dernier, il nous a dit non, là, il y a un risque potentiel qui est trop élevé, le match est annulé, vous déplacez pas. Mais jusqu'au dernier moment, on est dans la certitude qu'on va jouer, quoi. On est les mauvais garçons, quoi. Hein.
Bernard Lemaitre, le président du rugby club toulounais. Et puis on apprend à l'instant que les 24 heures moto du Mans sont annulées, prévues les 17 et 18 avril. Pas annulé, reporté plus précisément. Pour l'instant, pas encore de date, mais les organisateurs indiquent qu'on devrait l'avoir d'ici une dizaine de jours.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et c'est Broadway qui reprend vie. Alors qu'on a appris aujourd'hui ici l'annulation en France des Eurocoëns de Belfort, et bien les petites salles de spectacle, elles, commencent à rouvrir à New York. Lionel Gendron, les règles restent toutefois très très strictes.
Oui, c'est une petite lueur avant les pleins feux de Broadway, mais un premier signe, un premier voyant et surtout un symbole. Quand on demande ici aux professionnels du tourisme quand New York redeviendra New York, la réponse est à la reprise de Broadway. C'est-à-dire quand les grands spectacles comme le Roi Lion ou Harry Potter reprendront, a priori au mois de septembre. Car pour être rentable, ces grosses productions très chères doivent tourner à plein et avoir une capacité d'accueil à 100%. Ce soir, de plus petites salles ouvriront sans beaucoup de frais fixes, ce que l'on appelle le off-Broadway, entre 100 et 500 places. Elles devront avoir suffisamment d'espace pour permettre une jauge à 30%. Donc, soyons clairs, ce ne sera pas l'affluence des grands soirs, on ne se bousculera pas sur Broadway. Ce sera plutôt ambiance café-concert ou théâtre de quartier, tout en étant masqué bien sûr. Mais après la réouverture des restaurants et des salles de cinéma, cela dégage un peu l'horizon culturel new-yorkais.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL à New York.
Ça donne envie. Hein.
Et oui, ça donne envie.
L'envie de vous retrouver tout à l'heure à 18h30 aussi, Amandine Bégaud, pour toute l'actualité. Et l'actu, c'est sur l'appli RTL quand vous le souhaitez. Les 18h16, vous restez bien là dans un instant. On parle vaccination, on parle autotest surtout. Où sont-ils? On pose les questions à Martin Blachier, épidémiologiste. Il est avec nous juste après ceci.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
18h18, c'est donc le dossier des autotests du dépistage du Covid-19 qui nous intéresse ce soir et on s'interroge sur leur arrivée, sur le marché. Arrivée qui tarde un peu, c'est vrai, alors que beaucoup misent sur leur utilité, sur leur efficacité. L'invité de RTL Soir vient nous en parler, épidémiologiste, médecin de santé publique. Bonsoir à vous, Martin Blachier.
Bonsoir.
Vous faites partie de ceux qui militent pour ces autotests validés par la Haute Autorité de Santé récemment, durant les derniers jours du mois de mars. Et donc, ils sont où, selon vous ?
Ils sont dans les entrepôts. Pour l'instant, il y a des dizaines de millions de tests qui sont dans des entrepôts et qui attendent de pouvoir rendre service dans cette épidémie. Je crois qu'en France, on ne s'est pas rendu compte de la capacité que ces autotests avaient de nous faire reprendre rapidement une vie à peu près normale.
Du coup, qui ne valide pas pour l'instant? Est-ce qu'on est en retard sur la procédure? Odile Pouget, notre spécialiste santé, nous expliquait tout à l'heure qu'on respecte les étapes de validation.
Dans tous les pays d'Europe, ils sont utilisés aux États-Unis. La science a dit qu'ils étaient efficaces et la HAS les a approuvés. Et je rappelle que ce sont les mêmes tests, ceux qui sont utilisés aujourd'hui par les pharmaciens pour faire de l'antigénique. Donc je ne vois pas où est la polémique scientifique. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, il faut qu'on ait un plan autour de ces autotests parce que, je le répète, ils sont en capacité, en mai, de nous faire reprendre une vie normale. Donc il faut qu'on se prépare pour bien les utiliser et faire en sorte qu'ils puissent nous libérer.
Ça veut dire que qui ne valide pas pour l'instant?
Pour l'instant, en fait, on a un ministère de la Santé qui n'a pas bien compris le potentiel de ces autotests. Il pense que c'est des tests qui doivent avoir un positionnement particulier au milieu des autres tests. C'est pas du tout ça. C'est un changement de paradigme total de la stratégie de testing qu'on doit avoir en France. On doit passer du testé-tracé-isolé qui ne fonctionne pas à du testé-testé-testé et encore testé et parfois isolé.
Alors, il est passé par la case de la Haute Autorité de Santé récemment. Ça a été tamponné par l'Agence du Médicament. Ça a été tamponné il y a quelques jours. Donc, ça va arriver.
Ça a été tamponné il y a 2 bonnes semaines. Et pour l'instant, c'était extrêmement freiné au niveau du ministère de la Santé. C'est en train de se libérer, mais ils ne savent pas quoi en faire. Parce que comme pour l'instant, ils ont freiné et que maintenant, ils sont obligés de libéraliser parce que c'est en train d'être libéralisé dans tous les pays, il faut maintenant qu'ils construisent une stratégie autour de ces autotests. Mais il faut qu'ils se laissent convaincre, il faut qu'ils comprennent de l'intérêt que chaque entreprise, que chaque personne qui organise des événements, que chaque lycée, que chaque collège crée sa propre stratégie sur l'autotest pour que le 15 mai, on puisse se libérer. En plus de la vaccination, on va avoir besoin de ces autotests. Les Américains l'ont compris, les Anglais l'ont compris, les Allemands l'ont compris. À notre tour de le comprendre également.
Vous nous dites quoi du coup ce soir? C'est le ministre de la Santé en personne, Olivier Véran, qui bloque tout ça?
Pour l'instant, c'était lui qui bloquait.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la pression, il y a un lobbying derrière ça?
Parce que je pense qu'il préférait faire de la PCR. Donc je pense qu'il se laissait convaincre par les arguments des gens qui avaient intérêt à faire des PCR. De toute façon, ça c'est du passé. Maintenant, ils arrivent. Donc il faut construire une stratégie autour de ces autotests. Donc il faut qu'il laisse les acteurs économiques français construire leur propre stratégie sur les autotests. Les Anglais l'ont fait, comme je le rappelle, à notre tour de le faire.
Alors, vous êtes pour cet usage, vous, on l'entend bien ce soir, Martin Blachier. Ça fonctionnerait comment? Test par auto-prélèvement, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est le même test que vous faites, mais au lieu de mettre l'écouvillon tout au fond, vous le mettez dans le nez, vous tournez 5 fois, et vous pouvez savoir vous-même si vous êtes positif ou négatif. Et si les Français faisaient un test toutes les semaines, ce serait plus efficace qu'un confinement. Et ça peut aussi permettre de rouvrir tout un tas de secteurs économiques. Moi, je parle avec tous les acteurs économiques en permanence. Ils ont fait des protocoles et ils attendent que ce soit validé. Donc, il faut complètement changer notre état d'esprit avec ces autotests.
Et vous nous dites que concrètement, ça peut aider, ça peut nous permettre d'aller plus vite, ça peut s'additionner à la vaccination?
Exactement. En fait, ça peut nous permettre de faire un pont entre la situation dans laquelle on est et l'immunité collective qu'on n'aura pas avant la mi-juillet. Donc très concrètement, si jamais on fait bien les choses à partir de maintenant, qu'on commence à comprendre l'intérêt de ces autotests, le 15 mai, c'est pas les terrasses et les musées qu'on pourrait rouvrir, c'est quasiment la totalité de la société française. Et les gens l'ont compris. Nous, en France, on l'a pas encore compris. Moi, les plans, ils sont sur mon ordinateur. Je suis prêt à les partager avec tout le monde parce que je les ai eu des Anglais, des Allemands et des Américains. Il faut absolument qu'on se mette au niveau en France sur ce sujet-là.
Même si c'est quelque chose qui est pas facile à faire, on est d'accord. Par chacun, par les Français qui nous écoutent ce soir sur RTL, il faudrait dans un deuxième temps que ça soit confirmé par un professionnel.
Non, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Vous savez, les parents anglais le font à leurs enfants quasiment tous les jours, c'est le plan des Anglais. Il y a des périmètres en Allemagne qui sont des périmètres autotests, c'est-à-dire que vous ne pouvez rentrer dans ce périmètre que si vous avez fait un autotest. Donc je pense que les Allemands, les Américains et les Anglais savent le faire. Nous, les Français, on n'est pas plus bêtes que les autres, on serait capable de le faire. Donc l'argument de dire que ce n'est pas facile, ça c'est un argument de freinage, je le dis, de la part d'Olivier Véran, et c'est un argument qui est faux.
Mais il ne faudrait pas confirmer tout ça par un vrai test PCR?
Mais pourquoi faire? Pourquoi faire ?
Parce que c'est la loi peut-être
faire de la
aujourd'hui,
PCR en permanence. Ça sert à rien de faire une PCR si on a un antigène négatif. Ils ont la même spécificité. Donc cette confirmation de PCR ne rime à rien.
Vous nous dites que d'autres l'ont fait, comme les voisins, les Suisses, les Allemands et tant d'autres. C'est payant ?
Alors dans ces pays-là, effectivement, soit c'est envoyé par le gouvernement comme en Suisse, soit c'est fourni par les entreprises, par exemple comme en Angleterre. Chaque pays a son système pour les offrir, pour les faire payer. Mais ça, c'est pas un problème finalement. Chaque situation peut avoir son mode de financement de ces autotests.
Martin Blachier, il y a 48 heures, Emmanuel Macron a demandé des efforts supplémentaires aux Français pour freiner l'épidémie. Des mesures, des fermetures des écoles, restrictions nationales. Pas de confinement strict comme demandé par beaucoup de professeurs, de chefs de service de réanimation. C'était jouable de faire aujourd'hui, là, en avril, un confinement strict dans notre pays ?
Bon, déjà, c'était totalement infaisable. Et même la plupart des gens qui le réclamaient, deux minutes après, avouaient que c'était totalement impossible. En plus, je pense qu'il a eu tout à fait raison de ne pas faire un confinement strict, puisque l'épidémie est déjà en train de reculer, à Paris très particulièrement, et en Ile-de-France, qui prouve que les mesures qui avaient été prises sont tout à fait efficaces. La question qu'on peut plutôt se poser, c'est est-ce qu'il était nécessaire de fermer les écoles pendant trois semaines ? À mon avis, non. Mais je pense que la pression était telle sur les épaules du président qu'il ne pouvait aller moins loin que ce qu'il a fait.
Pourquoi ce soir vous dites non concernant les écoles ?
Parce que je pense qu'une semaine de fermeture d'école aura un impact très limité sur l'épidémie et les mesures qui avaient été prises permettaient déjà de faire reculer l'épidémie. Donc je pense que ça va nous coûter très cher. Je pense que c'est pas bien pour les enfants et je pense pas que ce soit nécessaire.
Ça va faire trois semaines avec les vacances ?
Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça ?
Là, ça peut être efficace.
Ben, ça aura une petite efficacité, effectivement, mais je ne pense pas que c'était nécessaire.
Il y a une petite musique qui est montée depuis deux jours sur ces restrictions nationales, prises selon beaucoup par Paris et injustement. Parce que Paris, l'Île-de-France est dans le rouge, on ferme partout. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je comprends qu'on puisse penser ça. Maintenant, à Paris, il y a des mesures qui ont montré leur efficacité. Et on a quand même une épidémie qui, visiblement, a besoin de ces mesures pour être contrôlée. Donc elles ont été mises en préventif sur toute la France. Mais je pense que maintenant, il faut regarder plus loin. Il faut vraiment se fixer la date du 15 mai pour être capable de réouvrir la France. C'est possible. Il faut y travailler jusqu'au 15 mai.
Il faut y travailler et on peut y croire. 15 mai, ça paraît là, ça paraît demain, quoi, depuis le temps qu'on attend.
C'est possible. C'est possible. Mais il faut se retrousser les manches. Il faut mettre des choses en place plutôt que d'uniquement penser à la restriction. La restriction, elle est non seulement plus possible, elle va être de moins en moins efficace parce que les gens s'usent. Donc maintenant, il faut travailler sur ces protocoles, la vaccination, les protocoles d'autotest, et on peut en être sorti très rapidement.
On parlait des écoles tout à l'heure, vous n'êtes pas sûr et convaincu que ça marche si on ferme ces écoles, établissements scolaires de notre pays pendant trois semaines. On a appris ce soir que les assistantes maternelles vont pouvoir accueillir les enfants. Est-ce que ça va dans le bon sens ?
Bien sûr, ça va dans le bon sens, mais je pense que le fait que les courbes refluent à Paris, en Ile-de-France, depuis 48 heures, n'est pas innocent dans le fait qu'aujourd'hui on lâche sur les nounous. Je pense qu'au sommet de l'exécutif, on se rend compte qu'on aurait même pu aller un petit peu moins loin sur les mesures et qu'on a surtout bien fait de pas aller plus loin.
Il faudra sacrément vacciner d'ici là, que ça s'accélère là aussi vraiment à la hauteur de cette campagne de vaccination. On a bien fait de vacciner par tranche d'âge, plutôt
oui,
que de faire du tout venant.
Oui, ça permet d'avoir une rentabilité maximale. Là où on aurait pu s'interroger, c'est si jamais on n'avait pas réussi à écouler les doses, on les écoule plus que les autres pays. Et la vaccination de quelqu'un de 70 ans est plus rentable en termes de santé publique que la vaccination de quelqu'un de 50 ans. Donc oui, ça restait une bonne mesure.
Voilà, l'échéancier qui a été annoncé, il est logique selon vous, c'est-à-dire la mi-avril et puis ensuite la mi-mai pour les plus de 50 ans.
Absolument, tant qu'on arrive à écouler les doses. Le moment où on n'arrivera plus à écouler les doses, peut-être qu'il faudra accélérer les paliers d'âge, mais pour l'instant, c'est une stratégie qui fait sens.
Vous y croyez aux 20 millions là dans le mois ?
Oui. Oui. Oui, tout à fait. J'y crois et je pense même que peut-être on ira un petit peu plus loin.
Et on parlait des enfants et des écoles justement. Est-ce que ces enfants, à terme, les moins de 18 ans, il faudra les vacciner selon vous ?
Très probablement. Aux États-Unis, ils sont en train déjà de faire les 16-18 ans. Ils travaillent sur la vaccination infantile. Donc c'est peut-être quelque chose vers laquelle on ira nous aussi.
Voilà, les choses sont claires ce soir avec vous. Merci Martin Blachier d'être venu dans RTL Soir, médecin de santé publique et épidémiologiste en direct. Entretien à retrouver évidemment sur notre appli RTL. Vous restez bien là. Dans un instant, c'est toute l'actualité avec Amandine Bégaud. On va se pencher sur le ciel aussi avec Céline Dacosta. Et puis on accueillera pour une mise en bouche, un avant-goût, Cyprien Sini. Parce qu'on va défaire le monde comme tous les vendredis soirs. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL. Dans 30 secondes, 18h30.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut retenir de l'actualité du vendredi, Amandine Bégaud.
Et les quelques 280 000 assistantes maternelles de France devraient pouvoir continuer à accueillir les enfants malgré la fermeture des crèches et des écoles. Pas encore de confirmation officielle du gouvernement, mais c'est ce qu'indiquent ce soir les syndicats de la profession après une réunion avec le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Le gouvernement qui laisse une tolérance ce week-end à ceux qu'il souhaite pour se déplacer, mais attention, aller fêter Pâques n'est pas un motif dérogatoire, prévient Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport. À Lyon, les quais de Saône seront désormais fermés au public et ce, au moins jusqu'au 2 mai. C'est ce qu'annonce ce soir le préfet du Rhône après la fête sauvage organisée cette semaine. Et puis les 24 heures moto du Mans prévues les 17 et 18 avril prochains sont reportées. Pas de nouvelles dates pour l'instant. Les organisateurs en promettent une d'ici 10 jours.
Merci Amandine Bégaud et bon week-end à vous. Merci. Bien évidemment. Et toute l'actualité, c'est l'appli RTL. Météoscope, c'est le temps des prochains jours avec ce week-end de Pâques. Céline, week-end où ça baisse côté température, mais il y a du soleil.
Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Il va encore faire beau ce week-end avec demain soleil généreux encore sur presque tout le pays. Alors petit bémol sur la moitié nord où les nuages seront nombreux le matin. Ce sera nuageux aussi sur la région PACA et la Corse avec un risque orageux. Ça va s'améliorer dimanche. On aura davantage de ciel bleu, mais toujours ce risque d'orage sur les Alpes du Sud et un ciel encore nuageux près de la Manche. Alors on peut garder les lunettes de soleil, ça c'est vrai, mais on va ressortir les manteaux, les bonnets, les moufles, hein, si vous voulez. 4 à 9 degrés demain matin, 1 à 6 degrés dimanche matin. Et ça, c'est du nord au sud. Hein. L'après-midi, la moyenne ira de 14 à 20 degrés. Toujours du nord au sud, ça sera un petit peu la moyenne tout le week-end.
Et le lundi de Pâques, donc moins bien.
Oui, alors on est passé de l'été au printemps entre jeudi et dimanche. Là, on va basculer en hiver. Hein. Le retour d'averses sur toute la moitié nord dès lundi matin. Pourquoi vous faites tous cette tête là?
Parce que c'est bizarre votre météo. Quoi.
Ah ouais, je sais bien. Avec le froid, on aura déjà des giboulées avec du grésil dans l'après-midi, toujours pour lundi. La moitié sud s'en sort pas mal, avec toujours de larges éclaircies jusqu'en fin de journée. Mais la pluie va doucement rattraper tout ça. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, la neige pourrait faire son grand retour. C'est pas un poisson d'avril. Hein. Jusqu'en plaine sur la moitié nord, on pourrait se réveiller mardi matin avec des sols blanchis. Et les températures seront raccord avec tout ça, hein, 0 à 5 degrés en moyenne mardi matin, 8 à 12 degrés au meilleur de la journée. Alors Stéphane, je terminerai en disant qu'on ne doit jamais sous-estimer les vieux dictons. En avril, ne te découvre pas
d'un fil.
Et pas qu'en doudoune. Météoscope signé Céline Dacosta. Dans 45 minutes, mesdames, messieurs, le coup d'envoi dont défait le monde, c'est vendredi. L'actualité est détendue avec l'équipe de Cyprien Signé aux commandes. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
On va se détendre en découvrant plein de choses ce soir. On va d'abord vous emmener dans les coulisses du pouvoir. Oui, en écoutant On défait le monde, vous découvrirez dans le détail comment Emmanuel Macron a décidé et préparé les annonces qu'il a faites mercredi. Vous allez l'entendre. Tout cela est assez étonnant. Ce soir, on vous propose aussi une chasse au trésor. Une vraie. Figurez-vous qu'il y aurait au moins 600 trésors cachés sur notre territoire. Peut-être même chez vous, Stéphane, dans les fondations de votre maison secondaire que vous n'avez pas. Et ils existent, mais on ne sait pas où ils sont. On allumera la lumière sur ces coffres pleins de pièces d'or qui nous font rêver. Et puis dans On défait le monde, on aura aussi un cuistot mafieux sur Internet, une boule à facettes et du Jean Castex. Et on vous offrira non pas un, mais deux cadeaux. 1,5 kg de chocolat et un an de coaching derrière pour vous remettre sur pied. Alors, franchement, et c'est carré. Hein. L'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux compte sur vous. Rendez-vous 19h15.
J'aime beaucoup l'association Boule à Facette et Jean Castex.
C'est ça arrive en plus.
19h15, on va défaire le monde dans RTL soir. Vous restez bien avec nous. On va parler musique dans un instant avec Hervé, le chanteur qui monte encore et toujours. Il est en direct en studio juste après ceci.
RTL soir.
RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
8h comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7h désert eagle, sensible mais sensible. 6h entente mineure sur mes ennuis. 5h par quel mystère, je crois qu'elle m'aime.
C'est en entendant ce titre-là à la radio hier matin, dans ma voiture, je me suis dit, tiens, si on passait un petit coup de fil à Hervé, le chanteur, et qu'on l'invitait à passer par RTL soir. Il est en direct avec nous, on est ravis, étoile montante de la scène française, 30 ans, un album qui a cartonné, une victoire de la musique cet hiver. La vie est belle, tout va bien, bonsoir à vous.
Bonsoir.
La vie est super belle même.
Oui, la vie est belle, on peut se le dire.
10 mois donc après la sortie de votre album, ces titres électro-pop et même hip-hop, c'est quoi? Ouais. C'est l'album qui change une vie?
C'est le premier en tout cas. Ouais. Donc il change forcément une vie, quoi, parce que c'est toujours une première fois, quoi. C'est les premiers clips, les premiers titres qui passent à la radio. Bon, moi j'ai la chance qu'ils passent à la radio, donc c'est fantastique. Et la première fois qu'on propose un peu une œuvre comme ça et qu'on la propose vraiment aux gens, quoi. Et il y a un début, une fin et tout. Ouais, ça change. Hein. Ouais.
Album qui est le résultat de quoi? Du premier confinement?
Je l'ai écrit avant. En fait, donc je m'étais confiné l'hiver juste avant. Et je me suis retrouvé reconfiné dans la maison où j'avais fait l'album. Donc, ce qui est assez marrant.
Et c'est là que vous avez tourné le fameux clip du titre qu'on vient d'entendre. Hein,
c'est ça, exactement. Et j'ai eu la mélodie de ce titre dans la cuisine, ce qui est complètement fou. Genre, tard dans la nuit, je me faisais des pâtes et je me suis dit, si un jour je fais un clip de ce titre, et bah, je serai dans une cuisine, pas dans une cuisine, mais ce sera une espèce de plan séquence, un peu à la Madame Doubtfire et tout. Je vais cadrer et tout.
En train de faire des crêpes, quoi.
Et là, du coup, j'étais en Bretagne et je me suis dit, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire en Bretagne? On va pas faire un English breakfast, hein. On va faire des crêpes et roule, j'ai fait des crêpes, quoi.
J'ai regardé le clip, vous êtes en tongs chaussettes.
Claquettes chaussettes, ouais.
Mais non, ça c'est interdit.
C'est... Alors, c'est toléré depuis peu. J'ai longtemps été contre. Essayer, c'est l'adopter, c'est terrible. Ça veut dire que si on met des claquettes avec des chaussettes de sport, la sensation est absolument incroyable. À l'œil, je sais pas ce que ça donne, par contre.
Cette période de confinement, quelque part, c'est une période qui vous a souri à vous, non ?
Oui, disons que c'est une période où, dès la première semaine, moi, je devais aller au Printemps de Bourges, lancer une tournée, lancer l'album, etc. Et je me suis dit, non, on a un album, là, il faut qu'on fasse des clips. Donc, j'ai un téléphone, on fera des pochettes avec le téléphone, on fera des clips avec. Donc là, pour le clip de C'est bien du mal, j'ai scotché mon téléphone au mur de ma cuisine. Deux semaines après, je m'en suis refait un. Je l'ai scotché à la voiture de mon père et je lui ai dit de rouler. J'ai tourné autour et j'ai dansé, j'ai sauté. Et donc j'ai fait plein de plans comme ça à la tombée du jour. Et en fait, je me suis dit non, je peux pas rester sans rien faire. C'est pas parce que voilà, on peut pas tourner, les planètes s'alignent pas forcément, que je ne sortirai pas ni l'album en juin sans tourner, parce que je voulais absolument le sortir, quoi qu'il en soit, et que la musique vive, quoi, et aille dans les foyers. Et donc il y a eu un challenge où les gens se sont filmés chez eux dans la cuisine et j'offrais des places de concert. Et... Bon, ce sera peut-être pour plus tard, mais voilà.
On en rêve évidemment. 30 ans, je disais tout à l'heure. Si on revient un petit peu sur le passé, la musique, ça a été depuis toujours.
Ça a été adolescent. Ouais, en fait, une fois que j'ai rencontré la musique adolescent, j'avais un synthétiseur, j'étais à la maison et j'ai commencé à faire de la musique avec mon ordinateur, à faire du piano, etc. Et là, j'ai plus vu le temps passer et je me suis dit, ok, je veux faire ça un maximum de fois, le plus de fois dans une journée. Donc très vite, j'ai un peu déserté l'école. et du coup, je me suis retrouvé, j'avais des petits boulots et puis je faisais de la musique, puis ça m'allait bien.
Ouais,
et
vous écrivez, vous composez?
J'écris, je compose et je réalise aussi l'album. Ouais. Donc je produis, je fais les basses, tous les instruments. Ouais.
Et quand je disais tout à l'heure électro-pop, hip-hop, vous êtes d'accord, c'est ça, hein?
Oui, j'ai écouté beaucoup de rap, beaucoup de hip-hop. Et c'était vraiment les années, quand j'avais une dizaine d'années, c'est les années 2000. Donc il y avait du rap partout, Victoire de la Musique partout, le 113, il y avait des grands tubes et tout. Donc j'écoutais évidemment beaucoup de rap. Mais surtout, ensuite, ça a été surtout la musique... anglo-saxonne et électronique, ouais.
Ouais, je voudrais qu'on s'intéresse à vos textes dans un instant et savoir qu'est-ce qui vous inspire en écoutant d'abord le premier jour du reste de ma nuit.
Wake up, encore dans votre nuit blanche, pour mes cités noires, je rappelle ma mère ou deux potes, le reste est fucked up. Le premier jour du reste de ma nuit, je t'ai attendu longtemps. Le jour, je reste dans ma nuit, j'ai pas pu faire sans.
Alors ça c'est quoi? C'est sur les petits boulots, c'est ça?
Ouais. En fait, à un moment, j'ai été homme de service, quoi. Je faisais le ménage, etc., dans les hôtels. Et en fait, j'avais vraiment mon chariot, etc. Et je me levais extrêmement tôt. Et tout le plan de vie, c'était, écoute, tu te lèves à 5h, tu finis à 13h. Donc t'as toute l'après-midi pour faire de la musique, tu vois. Sauf que quand tu te lèves à 5h, à 13h tu rentres, tu manges, après tu dors. Et le soir c'est l'insomnie. Et du coup tu dors pas beaucoup, tu te réveilles à 5h, tu prends le bus et j'allais avec mon scout et tout machin. Et en fait c'était un peu sur tout ça. Il y avait le clin d'œil à Étienne Dao qui avait fait un titre, Le premier jour du reste de ta vie. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Et quand j'ai eu ce petit jeu de mots et tout, je me suis dit ok, je voulais faire un truc un peu à la Happy Mondays, un truc un peu de ces années-là, années Britpop, les années 90 en Angleterre et tout. Voilà.
C'est-à-dire que vous transférez cette musique des années quoi, 80 à aujourd'hui, hein,
en fait, c'est ça, non ?
Oui, quelque part, oui. C'est vrai, parce que j'ai beaucoup écouté toute la scène anglaise des années 80, de Manchester, etc. Et même de chansons françaises. Hein. Et
ouais, c'est vrai que vous citiez Dao, il y a Bachung aussi, non ?
Ah oui, il y a Bachung, il y a Christophe, évidemment. Et même Rita Mitsuko. Enfin, il y a quand même plein de belles choses dans les années 80, 90.
C'est-à-dire que vous allez quand même de Bachung à Booba, quoi.
Ouais, bah, alors, il y a quand même... les derniers, je pense, enfin pas les derniers, mais dans cette génération de musique que j'écoutais, les derniers qui ont été lyricistes, qui ont fait un gros effort sur le texte et qui étaient, c'est beaucoup dans le rap en réalité. Moi, je sais pas, je fais pas du tout de rap, quoi. Mais c'est vrai que j'entends dans cette musique-là ce qu'on peut entendre chez Gainsbourg, ce qu'on peut entendre un amour du mot et de la rime, etc. Et c'est vrai que quand je me suis mis à écrire, j'avais écouté beaucoup de rap et je me suis dit, ok, si t'écris, alors là, il faut que tu te prennes un peu la tête, quoi.
Le chanteur Hervé est avec nous dans RTL Soir. Vous savez, les auditeurs de RTL, ils avaient un artiste en particulier, c'était Johnny. Et vous avez écrit pour un album de Johnny.
Oui, oui.
Vous nous racontez ça?
Ah oui, complètement. Ah ouais. En fait, j'avais un groupe avec un Anglais avant. Je traînais pas mal en studio pour faire des productions additionnelles avant de faire mon projet Hervé, etc. Et je me suis retrouvé au studio de Maxime Nucci, Yodelis, un week-end, mais pour totalement autre chose. Je crois que j'étais venu signer des papiers ou je sais plus quoi pour des productions que j'avais faites, des petits arrangements. Et il avait l'air assez fatigué. Il était assez, je voyais qu'il était passionné et tout par un truc. Et il me dit, je pars mardi à Los Angeles. J'ai plein de musique, plein de yaourts, donc plein de mélodies de voix où il n'y a pas de mots, etc. Si tu veux essayer ce week-end, essaye, on ne sait jamais. Mm-hmm. Moi, de toute façon, je lui ferai écouter la semaine prochaine, le temps que j'arrive, mercredi ou jeudi. Et je m'y suis collé ce week-end-là. Je crois que je n'ai pas bien réalisé, et c'est passé très vite. Et ensuite, il les a enregistrés, il a écouté. Et il a enregistré, pardonnez-moi, je crois, le vendredi. Mmh. Ouais. Donc ça allait super, super bien.
Vous avez écrit pour lui, vous l'avez jamais vu ?
Jamais. Ouais. Ensuite, j'aurais rêvé de le voir, même en concert, il tournait encore avec les vieilles canailles et tout. Et en même temps, c'est toute la beauté. Moi, j'y suis pour rien, c'est 51 disques. Enfin voilà, c'est Johnny, quoi.
Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd. Si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit. Pardonne-moi.
Ça, c'est vous pour les mots.
Oui.
C'est pas rien, hein.
Ouais, c'est surtout la voix qui est complètement incroyable. Il chantait, j'ai juste vu des petites vidéos en studio, il est à 1 mètre du micro, tellement il envoie. Je pense qu'il a. Oh là là, quelle voix.
Bon, cet hiver, il y a eu cette victoire de la musique, révélation masculine. Franchement, c'était pas programmé, en tous les cas. Je vous ai entendu commenter cette victoire-là. Vous l'aviez pas vu arriver, hein.
Ah ouais, non, pas du tout. Je m'y attendais pas.
C'est digéré aujourd'hui?
Je sais pas si ça se digère. Mais en tout cas, je suis tellement heureux. Genre, après l'année qu'on a passée, bon, comme tout le monde. Mais c'est vrai que. On est allé jouer quand on a pu jouer, l'Olympia a été annulé. Alors j'avais ce fantasme de faire un Olympia vite sur YouTube pour que tout le monde voit les coulisses partout en France, donc même ceux qui habitent pas à Paris peut-être qu'ils seraient venus me voir à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand, peu importe, et qu'ils puissent voir les coulisses, le bar Marilyn et tout. Donc on a essayé plein de trucs. Et de voir que ça ait plu aux gens et aux professionnels, c'est les gens qui ont porté hyper mon premier album jusque là en fait. Hein. Mmh. Ouais.
Emmanuel Macron parlait l'autre soir lors de sa prise de parole d'une porte qui pourrait s'entrouvrir à la mi-mai pour le monde de la culture. Vous y croyez, vous ?
Moi, je fais jour le jour.
Ouais.
C'est ma stratégie depuis. Instinctivement, je fais ça depuis le confinement. Je fais ça globalement dans la vie. J'aime bien, c'est que je me dis ok, nous on est prêts. Si on peut jouer demain, on ira jouer et voilà. Et si on peut pas jouer, c'est qu'il y a bien une raison.
Vous êtes programmé sur des festivals pour cet été ou pas?
Ouais, j'ai une tournée. Hein. Ouais. J'ai pas regardé.
Je vous pose pas la question du coup.
Ah ben je peux pas dire
s'ils ont lieu, vous y serez.
Ah ben alors là, là j'ai joué à Six Masqués au mois de septembre, octobre. Là, si on peut aller en festival à Six, non mais moi dès qu'on peut jouer partout, on y va, même en radio partout.
Ouais. Ça serait un monde meilleur en tous les cas.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. Je Bon, vous êtes bien heureux d'être un chanteur aujourd'hui. Vous n'avez pas des regrets de ne pas avoir été le footballeur dont vous rêviez plus jeune?
Avec le recul, moi j'ai des amis qui ont poussé un peu. Je pense que je voulais plus du foot qu'ils voulaient de moi. En fait, là, il y a ce truc-là. Il y a ce truc, ouais, non, il y a ce truc. Ouais, on a tous des passions enfants et adolescents. Et ça peut être assez obsessionnel. Hein. Genre, bah, qu'on fasse de la danse, qu'on soit à l'ice ping-pong ou qu'on fasse de la peinture, du théâtre, peu importe. On passe beaucoup de temps en fait à ça, et moi je passais énormément, j'aimais pas tant l'école, donc c'est vrai que ouais, je me serais bien vu parcourir la France, même à un club en, je sais pas, en National 3 ou je sais pas où j'aurais pris.
Aujourd'hui vous êtes supporter d'un club breton ou du PSG?
Ah, supporter du PSG.
PSG.
Du PSG, et mon deuxième club, je sais que ça se fait pas, ça fait footix de dire t'as un deuxième club, là tous les fans du PSG vont dire non, on peut pas avoir, c'est le FC Lorient. Ouais.
Pour le PSG, Mbappé il va partir ou pas?
Ouais, Mbappé il part en fin de saison au Real.
Ah ouais?
Bah oui, parce que vu le match qu'il a fait contre le Barça, c'est une sacrée carte de visite quand même. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué comme ça.
Ça va intéresser nos amis du service des sports, votre info de ce soir. On vous souhaite que des belles choses pour la suite, ça a été un plaisir immense.
Et plaisir partagé, merci beaucoup. Hein.
On se quitte avec Higelin, tiens. Juste cadeau parce que vous étiez fan aussi.
Trop bien. On peut pas nous quitter alors.
Quel représage pour un aiguilleur du ciel.
Hervé dans RTL Soir et son album c'est Hyper, avec les prolongations, les titres supplémentaires.
C'est ça.
Régalez-vous, merci beaucoup d'être passé par RTL Soir, c'est un plaisir.
Merci infiniment.
Je rappelle l'info, hein, Mbappé va partir à Madrid. C'est pas rien. Dans un instant c'est Eric Brunet pour commenter l'actualité, à tout de suite.
Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te veux du bien? Quand tu te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien.
RTL Soir.
RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet dans RTL Soir le vendredi pour les temps forts de la semaine. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Ça commence par dimanche avec des images qui suscitent vos commentaires. On a vu Francis Lalanne demander à des manifestants opposés aux restrictions sanitaires de s'embrasser.
Ça s'est passé à Nice, place Garibaldi, et Christian Estrosi a réclamé des sanctions exemplaires. Mais la bise, proscrite depuis la pandémie, est-ce que la bise va devenir un acte répréhensible? Certains craignent d'ailleurs que les séquelles de cette crise est une influence sur le rituel. Ce serait quand même dommage, parce que la bise, c'est un truc bien de chez nous qui n'a de cesse d'intriguer d'ailleurs les anglo-saxons qui préfèrent l'accolade, le hug comme on dit. Autrefois, la bise en France ne se pratiquait qu'entre membres d'une même famille, et puis c'est à partir des années 60, avec l'arrivée de la mixité dans les collèges et les lycées, que la bise est devenue un moyen de se saluer entre garçons et filles. Alors, il y a d'importantes spécificités régionales, hein, à commencer par le nombre de bises. À Paris et dans l'ensemble du pays, le standard, c'est 2 bises. Mais dans le Languedoc, dans le sud de la vallée du Rhône et en Suisse romande, c'est 3 bises. Un héritage, nous dit-on, du protestantisme. Et puis en Champagne et dans le Val-de-Loire, on passe à 4 bises. Et enfin, dans le Finistère et la Belgique francophone, on se contente d'une seule petite bise. Autre différence régionale, au sud et à l'est du pays, on tend d'abord la joue gauche, ailleurs, c'est la droite. Voilà, enfin tout ça, c'était avant le Covid, parce qu'après tout ça, ben, on ne se fera peut-être plus jamais la bise en France. On verra.
Autre fait marquant, c'était mardi, Eric, on apprenait que l'université d'Oxford envisageait de revoir son enseignement musical, accusé de trop favoriser la musique européenne blanche.
Bah oui, le rapport déplore que les musiciens étudiés et les professeurs soient trop souvent blancs. Donc voilà qu'Oxford a décidé d'abord que les leçons de piano et ensuite que la direction d'orchestre, actuellement obligatoire, deviendraient des cours facultatifs pour ne pas défavoriser les minorités. Autre chose, on va remplacer les cours et les compositeurs historiques comme Schubert par l'enseignement de musique traditionnelle africaine. La musique classique est dans le viseur du courant décolonial. Il y a quelques mois d'ailleurs, le trompettiste Ibrahim Malouf avait reproché à l'orchestre philharmonique de Vienne d'être trop blanc. Aux États-Unis, ça fait des années que la musique classique est vilipendée par la gauche pour son manque de diversité. On l'accuse de favoriser la suprématie blanche. Et pour ne pas être privé de subventions, ben un certain nombre d'orchestres préfèrent mettre fin au recrutement à l'aveugle.
aveugles pour embaucher des musiciens issus des minorités. C'est paradoxal parce que quand on sait que le recrutement à l'aveugle, justement, c'est-à-dire les auditions derrière un paravent où on ne peut pas juger les gens sur le physique mais uniquement sur le talent, eh bien c'est ces auditions-là qui avaient permis aux femmes d'intégrer les orchestres classiques à partir des années 70. Quant à prétendre que la musique classique est une musique de blanc, c'est factuellement mensonger. Dès le XVIIIe siècle, il y a eu en Europe des compositeurs noirs. Le plus fameux est le chevalier de Saint-Georges, dont la mère était une esclave de Guadeloupe. Saint-Georges était très populaire sous Louis XVI. Violoniste, virtuose, compositeur de sonates, de symphonies, de concertos. On l'a même appelé le Mozart noir. Il fut même le maître de musique et les professeurs de clavecin de Marie-Antoinette et quelques rares rues porte son nom en France.
De la musique au cinéma, Eric, votre regard ce soir sur la disparition de Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier dont les obsèques se sont tenues mardi.
Ben oui, Tavernier, c'est une série de films cultes. Le juge et l'assassin, Coup de torchon, Capitaine Conan, L'horloger de Saint-Paul, L'appât, Quai d'Orsay. Et puis un film injustement oublié, La mort en direct, avec Harvey Keitel et Romy Schneider. Un film sorti en 1980 qui pointe de manière prémonitoire la dictature du voyeurisme à la télévision. Mais moi, mon préféré, c'est Que la fête commence. Une comédie historique auréolée par quatre Césars avec pour toile de fond une période méconnue de l'histoire de France, la Régence. Une période charnière entre la mort de Louis XIV et l'avènement de Louis XV, où la France était dirigée par un débauché, le duc d'Orléans, et son ministre, le cynique abbé Dubois. Et quel casting, hein ? Alors, dans le rôle du marquis de Pontcallec qui tente de soulever la Bretagne, Jean-Pierre Marielle. Dans celui de l'abbé Dubois, Jean Rochefort. Quant au régent, il est incarné par Philippe Noiret, l'acteur fétiche de Tavernier. Et dans le film qui était sorti en 75, le personnage faisait étrangement penser à Giscard qui venait tout juste d'être élu. Et puis Tavernier, c'est avec Boisset le prototype du réalisateur engagé à gauche. Attention, hein, pas bêtement militant. Pour preuve, son film incroyable L627, sorti en 92. Un polar super documenté qui a brisé les codes du film policier. L627 dénonçait déjà il y a 30 ans le manque de moyens de la police, le décalage entre la formation théorique et la pratique, le poids de la paperasserie administrative, et il montrait déjà des flics en burn-out. Et Tavernier, c'était aussi un cinéphile incollable. Robert Guédiguian lui a d'ailleurs rendu cet hommage. Tavernier a-t-il dit, c'est l'homme qui aimait le plus le cinéma français.
Et puisqu'il n'y a pas de semaine sans sujet polémique sur la vaccination, Eric, c'était jeudi, l'OMS a fustigé la lenteur de la vaccination contre le Covid en Europe, coupable selon elle de prolonger la pandémie. Hein.
Il y a une étude publiée par le Financial Times qui dit quand même que le Royaume-Uni ou les États-Unis ont dépensé 7 fois plus d'argent en proportion de leur population que l'Europe pour le développement, l'achat et la production de vaccins contre le Covid. Alors qu'au printemps 2020, Trump annonçait un vaccin avant la fin de l'année, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas été très bon. Hein. Et le président français, tiens, affirmait il y a seulement 6 mois, il affirmait « Ceux qui disent qu'on aura un vaccin en mars ou en avril prochain, c'est-à-dire maintenant, vous trompe. » Voilà. Ben, notre président a dit une énorme ânerie, une sorte de bêtise historique absolument incroyable. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein. Souvent, quand on regarde l'histoire, des bêtises comme ça, planétaires, il y en a plein. J'ai sélectionné pour vous, Stéphane, une petite anthologie que j'ai trouvée dans le livre d'Anne Kenneck, qui s'intitule « Internet, ça ne marchera jamais » sur les grandes bêtises qui ont été dites. Écoutez ça. Premier ministre anglais, Benjamin Disraeli. « Le canal de Suez est une tentative futile et absolument incroyable. Impossible à réaliser. J'aime bien celle-là aussi, ça c'est Léon Blum en 1932. Quoi qu'il arrive, la route du pouvoir est fermée devant Hitler. Une de mes préférées d'ailleurs est la suivante, c'est un rapport du Sénat français en 1994. Le réseau Internet est mal adapté à la fourniture de services commerciaux. Elle est fabuleuse. J'ai aussi le général Foch en 1911. Les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire. Bref, Emmanuel Macron l'aura au moins appris en politique, il faut se garder de tout pronostic.
Éric Brunet et sa liberté d'expression, c'est tous les vendredis pour l'acte 1 dans RTL Soir. L'acte 2, c'est le dimanche, 13h, 14h. Des invités, du débat, c'est Où va la France. À dimanche, Éric.
À dimanche, Stéphane.
18h58, merci de votre fidélité. Dans un instant, toute l'actualité avec Hortense Crépin. À tout de suite.
RTL Soir.
19h.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et à mes côtés, Hortense Crépin pour toute l'actualité du vendredi soir. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, week-end de Pâques et nouvelles mesures du monde sur les routes avant le reconfinement.
Journée orange demain dans le sens des départs et certains ont déjà rejoint leur résidence secondaire pour y vivre les 4 prochaines semaines. Dans le même temps, la galère des parents pour faire garder leurs enfants alors que les assistantes maternelles pourront finalement travailler. Les Eurokéennes, elles, coupent le son à cause de la pandémie. Le festival n'aura pas lieu pour la 2e année consécutive. Enfin, il y a un an, Sarah Abitbol brisait l'omerta sur les violences sexuelles dans le sport. Des premiers chiffres sur le sujet dévoilés aujourd'hui.
À la fin du journal d'Hortense Crépin, il y aura la météo fraîche du week-end avant de défaire le monde sur RTL jusqu'à 20h.
RTL Soir.
À l'heure du couvre-feu, coup d'envoi de ce week-end de Pâques, Hortense, que beaucoup ont décidé de passer ailleurs.
Comme une dernière parenthèse avant le reconfinement, et certains ont choisi de partir et de rester sur place ces 4 prochaines semaines. Les volets des résidences secondaires se sont beaucoup ouverts sur la côte normande, par exemple, comme à Deauville, Frédéric Veil.
Oui, beaucoup de monde cet après-midi sur les lignes Paris-Normandie. Ce sont 29 trains supplémentaires qui permettent aux Franciliens de rejoindre la côte.
Éloignez-vous de la bordure du quai.
Et alors, sitôt le train arrêté, c'est le défilé des valises à roulettes en gare de Deauville où Yanis, étudiant, confirme que...
Le train était bien rempli. Puis voilà, puis c'est pour voir un peu mes grands-parents qui viennent d'être vaccinés, donc je peux enfin aller les voir.
Et en profiter surtout pour se confiner 4 semaines sur la côte normande, comme cette maman venue avec sa fille. Il y a 2 jours, elle a décidé de louer...
Un petit studio pour faire prendre l'air à ma fille, parce que je ne suis pas partie de Paris depuis longtemps et je tiens un restaurant qui est fermé, donc j'estime que je peux aller prendre l'air sans créer de danger.
Et au grand air, sur la plage, il y avait beaucoup de monde cet après-midi, comme ce couple avec ses 2 enfants.
On est arrivé il y a 2 jours. On a fait un confinement très strict depuis le début. On a été extrêmement rigoureux depuis un an.
Et puis bon, bah là, donc c'était l'occasion de sortir librement. Voilà.
Oui, car ici, et plutôt qu'à Paris, ils vont pouvoir profiter du grand air durant les semaines à venir. Une chose possible pour eux, qui se sont mis tous deux en télétravail.
Le reportage à Deauville de Frédéric Veil.
Et dans le même temps, d'autres se demandent comment ils vont faire garder leurs enfants.
Télétravailler avec les enfants à la maison, l'équation infernale que beaucoup de parents ne veulent surtout pas revivre. Il faut donc trouver des solutions, et vite. Plus 120% de fréquentation sur l'une des principales plateformes de babysitter, quelques heures après les annonces d'Emmanuel Macron. Juliette Jay a donc suivi une maman en galère.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Maëlle, c'est Cassandre, la maman de César, je vous dérange pas ?
Cette maman commerciale est au téléphone depuis ce matin, un appel avec un client, un autre avec une babysitter.
La crèche ferme à partir de mardi, donc la semaine prochaine, il faut que je trouve des babysitters. On essaye de se répartir avec mon mari. Je vous appelle 2 minutes parce que...
Alors elle enchaîne les coups de fil, 15 depuis hier.
Là, ça commence à devenir compliqué, sachant que tout le monde est dans la même situation. Les babysitters sont évidemment ultra sollicités et pas toujours disponibles en journée parce que la plupart sont en cours.
Coup de chance, Maëlle, en ligne, accepte pour jeudi et vendredi prochain.
Pour les matinées, oui. C'est bon. Jeudi matin, vendredi matin, ouais.
C'est top. Merci beaucoup, Maëlle.
Mardi, c'est son homme de ménage qui va faire des heures sup pour s'occuper de César. Enceinte de son 2e enfant, la trentenaire ne peut pas à la fois télétravailler et garder son fils de 2 ans.
Il a besoin d'être ultra stimulé, de sortir. On habite à Paris, dans un appartement parisien, avec pas d'extérieur. C'est pas évident. Il peut jouer 20 minutes de son côté. Mais nous, ça nous suffit pas pour faire un rendez-vous client ou une réunion.
Presque une semaine de bouclée, reste maintenant à réfléchir pour les 2 suivantes. Éventuellement, la grand-mère, par chance, elle habite Paris.
Reportage de Juliette Jay. Alors l'une des solutions, ce sera peut-être d'avoir recours à une assistante maternelle. Après le couac du gouvernement hier, elles vont finalement pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu'en mars 2020. 10 enfants maximum dans les maisons d'assistantes maternelles. Mais le gouvernement déconseille toutefois aux parents d'y avoir recours. Écoutez, le soulagement de Camille, elle est près de Lyon et va pouvoir continuer à garder les 4 enfants dont elle s'occupe.
Oui, effectivement, soulagée. Surtout que là, sur la commune, en tout cas où on est, on était toutes prêtes à travailler. Un soulagement et on estime travailler sans risque sur cette tranche d'âge 0-3 ans. Sans risque auprès des enfants, mais auprès des adultes, effectivement, on prend toutes les précautions du matin, c'est-à-dire port du masque, lavage des mains, gel. Et surtout, c'est qu'on a une rencontre très brève, qui dure environ 5 minutes le matin et le soir.
Camille, assistante maternelle au micro de Bertrand Frachon.
Et puis si vous n'êtes pas encore soumis aux nouvelles mesures, demain soir ce sera fini, hein. Vous ne pourrez plus acheter de vêtements ou de chaussures.
Retour à la distinction commerce essentiel ou non essentiel. Alors certains ont fait leur dernière vente aujourd'hui. En Moselle par exemple, les magasins sont en principe fermés pour vendredi saint, mais le préfet les a autorisés à ouvrir et les rares à avoir levé le rideau ont quand même profité une dernière fois des clients, comme à Metz, dans des rues plutôt désertes, Samuel Goldschmidt.
Oui, peu de commerces ont profité de cet arrêté qui est tombé très tard hier soir. Ce sont surtout des indépendants comme Anne Gauthier de l'association des commerçants du quartier Cathédrale.
Je sais de sources sûres que ceux qui n'ont pas pu ouvrir, tout simplement une histoire de timing. Quand vous avez une équipe de 4, 5 personnes, qui sont souvent parents, c'est compliqué de se retourner et de dire « Ok, pas de souci, demain 9h30, je suis là ». Le deuxième point, c'est que qui dit travail un jour férié dit payer double et récupération. Vu les 4 semaines qui nous attendent, ça va être une usine à gaz sur tout ce qui est paye, sur tout ce qui est planning. Donc moi j'ai cette chance, je suis indépendante, je suis seule, je viens.
Et ceux qui ont ouvert ont malgré tout eu des clients, pas gênés par la foule.
Personnellement, sur ma boutique, c'est très positif. Donc je suis heureuse d'avoir ouvert, c'est un bon résultat.
Clients pas forcément étonnés par les rues calmes, pandémie ou pas, le vendredi saint est quand même très respecté en Moselle.
On s'est dit, on va faire le tour de la ville, voir si les magasins sont
ouverts. Mais il y en a 1 sur 10, même pas. Non, moi ça me semble normal que les gens n'aient pas ouvert.
Car il reste demain, et puis beaucoup vont faire des opérations de vente à distance pendant les 4 semaines de confinement.
Samuel Goldschmidt à Metz pour RTL.
Encore un coup dur pour les fans de musique. Après le Hellfest, après Solidez, c'est au tour des Eurockéennes de Belfort d'être annulé une deuxième fois.
Le festival devait se tenir début juillet. 128 000 personnes s'étaient rassemblées en 2019. Mais pas assez de garanties et donc trop risqué de maintenir l'événement pour le patron du festival, Jean-Paul Roland.
On est vraiment contraint de prendre cette décision. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on demandait à cor et à cri, en tout cas une grande partie du secteur, un fonds de garantie assurantiel, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de continuer à y croire et à y travailler. Et que si, par malheur, on ne pouvait pas y arriver à une date proche du festival, bah, ces fonds engagés nous auraient été remboursés. C'est ce que j'appelle le parachute. Au lieu de ça, on nous a dit non, allez-y. Finalement, c'est une équation qui est impossible à résoudre, puisque faire une jauge dégradée, comme on l'a montré au ministère, nous amenait dans des pertes qui, de toute façon, ne pouvaient pas être compensées à 100%. Il fallait faire un choix, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'annulations en ce moment. Il fallait faire un choix entre sauver la structure ou alors aller dans un nouveau projet dont on savait aussi qu'il allait perdre de l'argent.
Jean-Paul Roland, le patron des Eurockéennes, avec Laurent Marsic.
Vous restez bien là, la suite du journal, c'est dans un instant. Avec les députés qui ont voté, il n'y aura plus d'emballage en polystyrène dès 2025. On vous explique après ceci.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Hortense Crépin pour la suite du journal. La boîte en polystyrène qu'on jette juste après avoir mangé, eh bien ce sera bientôt terminé.
Parmi les plus de 7000 amendements étudiés pour la loi climat à l'Assemblée, une demande des députés de la majorité et de l'opposition. Ils veulent accélérer l'interdiction des polystyrènes dans les emballages alimentaires à usage unique. Un texte voté contre l'avis du gouvernement car il se trouvait dans un article consacré à un autre sujet. Mais qu'importe, les parlementaires ont voulu marquer le coup. Maïna Sage et député UDI de Polynésie.
Pour nous, l'objectif, c'est aussi de montrer l'exemple, parce que quelque part, nous savons où finissent tous ces plastiques. Lorsqu'ils ne sont pas enfouis, ils finissent dans nos océans. Et étant moi-même député de Polynésie française, qui représente 46% de la ZEE française, c'est vraiment un engagement très important pour moi d'essayer de lutter un maximum contre toutes les formes de pollution plastique qui, malheureusement, aujourd'hui, contaminent nos océans, on le sait, et qui se dégradent dans les océans, mais qui, finalement, on l'a vu, restent à l'état de nanoparticules et, finalement, contaminent toutes les ressources de nos océans.
Maïna Sage, députée UDI de Polynésie, avec Marie-Bénédicte Allaire.
L'actualité à l'étranger, c'est la Birmanie où les tensions se multiplient et font craindre une guerre civile.
Ce sont les mots de l'émissaire de l'ONU pour le pays. Elle appelle à utiliser tous les moyens pour éviter une catastrophe et un bain de sang. Depuis 2 mois, la junte militaire a pris le pouvoir et renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Et la répression ne fait que s'accentuer, Émilie Beaujard.
Oui, et depuis quelques heures, Internet est coupé dans tout le pays. Seuls les téléphones fixes fonctionnent encore. Moyen supplémentaire utilisé par les militaires pour faire pression sur la population birmane qui réclame le retour de la démocratie. Dans les rues, la répression est de plus en plus violente. Les militaires n'hésitent plus à tirer sur la foule et à semer la terreur dans les villages. Selon les ONG, il y aurait déjà plus de 500 morts et plus de 2000 personnes arrêtées. Morgan Esch d'Amnesty International.
On est dans un pays qui est à l'arrêt, qui est en train de basculer dans une guerre civile, si ça n'a pas déjà démarré. On n'a plus d'accès aux soins, au travail, aux banques, aux services publics et surtout on a une armée d'occupation qui se pensent invincibles.
Plusieurs entreprises étrangères ont décidé de suspendre leurs activités en Birmanie, mais les ONG réclament des sanctions internationales plus sévères pour obliger les militaires à rendre le pouvoir.
Émilie Beaujard. En sport, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, positif à la Covid-19, c'est ce qu'annonce le club sur Twitter. Il ne sera donc pas sur la pelouse face à Lille et surtout pas présent pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Et puis en rugby, Toulon perd son match après l'annulation du 8e de finale de Coupe d'Europe de rugby. Les Irlandais de Leinster sont donc qualifiés.
C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. La patineuse Sarah Abitbol racontait avoir été violée par son ancien entraîneur.
Dans son livre « Un si long silence », elle brisait enfin l'omerta. Le début d'une prise de conscience sur les violences sexuelles dans le sport. Le ministère met alors en place une convention sur le sujet. La deuxième s'est tenue aujourd'hui et donne un premier aperçu des chiffres. Depuis un an, plus de 400 affaires traitées ou en cours de traitement par la cellule spécialisée, avec 445 personnes mises en cause, Isabelle Langer.
96% sont des hommes, mais 71% sont des éducateurs professionnels ou bénévoles. 48 fédérations sportives sont concernées, 12 d'entre elles concentrent 66% des affaires, dont certaines, comme en natation ou en équitation, ont été médiatisées. Mais pour Fabienne Bourdet, la déléguée ministérielle en charge de ce dossier, il ne faut pas les montrer du doigt, bien au contraire.
On retrouve effectivement dans ces fédérations où nous avons aujourd'hui le plus de signalements, les fédérations qui ont eu des stratégies internes d'accompagnement des victimes et de libération de la parole.
Il faut savoir que 90% des signalements concernent des violences à caractère sexuel, que la grande majorité des faits se déroulent dans des clubs classiques et concernent 8 fois sur 10 des mineurs de moins de 15 ans. Pour Aude Christo, présidente de la cour d'assises du Loiret.
Le milieu du sport attire des prédateurs sexuels, comme le milieu de l'école, parce que c'est vraiment un moyen pour des prédateurs sexuels d'approcher des enfants et dans leur plus grande intimité.
De raconter le cas d'un moniteur de cyclisme sur route coupable de 19 viols sur des enfants. C'est pourquoi Roxana Maracineanu, la ministre chargée des sports, se félicite de l'avancée sur le contrôle de l'honorabilité des bénévoles. 2 millions seront soumis à ce contrôle d'ici le mois de septembre, ce qui permettra, selon elle, une rentrée sportive en toute sécurité pour toutes les associations sportives qui ont participé à ce grand chantier.
Isabelle Langer du service des sports de RTL, et on vous rappelle le numéro de la cellule d'écoute mise en place pour les victimes de violences sexuelles dans le sport, c'est le 119. Et puis pour finir, Stéphane, vous vous souvenez sûrement de cette scène, ça s'est passé samedi dernier.
Ronaldo, bon.
Serbie-Portugal pour les qualifications au Mondial de foot et l'exaspération de Cristiano Ronaldo dont le but est refusé par l'arbitre. CR7 jette son brassard noir de capitaine. Et bien figurez-vous qu'un pompier présent sur place l'a ramassé et mis aux enchères. Il a été adjugé ce matin 64 000 euros. L'argent va financer le traitement d'un bébé serbe atteint d'une maladie très rare, comme quoi les coups de sang financent parfois les bonnes actions.
Absolument, merci Hortense Crépin, on vous retrouve à 20h bien sûr pour toute l'actualité. Je me tourne vers Céline Dacosta pour le ciel. Il va faire moche, hein ? Non, il va faire beau, mais il va faire froid.
Oui, il va faire froid, effectivement. Demain, la fraîcheur, on l'a déjà senti aujourd'hui, apporté par ce vent de nord-est polaire. Il va continuer à souffler demain et faire encore baisser les températures. 2 degrés demain matin à Alençon, 3 à Orléans et à Nancy, 4 degrés à Mulhouse et Caen, 5 à Paris et Besançon, 6 à Brest. Ce sera un petit peu plus doux pour la moitié sud, hein, 8 à 12 degrés le matin. L'après-midi, bon, on aura des valeurs de saison, hein, pour la moitié nord, 11 à 14 degrés. Ça sera encore un petit peu chaud pour les régions les plus au sud, 19 à 23 degrés en moyenne, mais ça va continuer à baisser là aussi le reste du week-end. Côté ciel, un samedi agréable avec du soleil pour presque tout le monde. On aura surtout des nuages près de la Manche qui pourront déborder dans la matinée jusqu'en région parisienne. Ça ira mieux dans l'après-midi, davantage d'éclaircies. Ce sera bien couvert en revanche entre la région PACA et la Corse, avec là un risque d'orage.
Et la semaine prochaine, la neige.
La semaine prochaine, la neige, surtout entre lundi, mardi, peut-être mercredi, mais en tout cas dans la nuit de lundi à mardi, c'est là où on attend les flocons sur la moitié nord. Attention, hein,
attention,
pas partout.
Attention, merci Céline Dacosta pour tout ça. Il est 19h15. Soyez tous les bienvenus si vous arrivez. On va défaire le monde juste après ceci avec toute l'équipe.
RTL Soir.